Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Julia Vignali, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être qui rend votre vie quotidienne plus douce. Et ce vendredi, Mélanie, qu'est-ce que nous avons au menu pour se faire du bien?
Alors primo, le programme avec les bienfaiteurs d'Europe 1 que nous retrouverons vers 11h45. Notre chroniqueur explorateur, Gavin Clémenté Ruiz, du Guide du Routard. Alors comme nous avons posé nos valises à Roland-Garros pour la quinzaine, ça l'a inspiré. Il a donc décidé de nous inviter à découvrir des terrains de tennis insolites en France et dans le monde. Ça inspirera sûrement les plus sportifs pour leurs prochaines vacances. Et puis après ça, on retrouvera Perla Servan-Schreiber pour ses conseils culinaires du vendredi. Aujourd'hui, elle va partager avec nous sa recette des mafaldines. Ce sont des petites pâtes au rebord dentelé, un peu comme si elles étaient frisées. En tout cas, avec Perla, elles seront agrémentées notamment de tomates cerises. Mais avant la dégustation, Julia.
Avant cela, et dans un instant, on va ouvrir ce magazine avec un coup de projecteur sur la maladie de peau qui touche le plus de personnes en France, des millions de patients, j'ai nommé l'eczéma. À la veille de la journée nationale contre cette maladie qui se déroulera demain, on va tout revoir ensemble. Comment reconnaître cette pathologie de la peau? Qu'est-ce qui cause l'eczéma, notamment chez les nombreux enfants concernés? Et surtout, comment le traiter efficacement? Car aujourd'hui, oui, c'est possible. La consultation de Bienfait pour vous va ouvrir dans quelques instants, juste après le point de vue de Clément Lanoux.
Europe 1.
Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, vous me faites pas de cadeaux là quand même. Chaque jour j'essaie de faire puisqu'on est
allez,
à quelques
Clément,
mètres
fais nourrir
du central
sur l'eczéma.
De Roland-Garros. J'essaie de faire des petits quiz cette semaine. Donc allez faire un quiz sur l'eczéma. Je me suis dit, est-ce qu'on se montre les bras, on joue à qui en a le plus, qui en a le moins. J'ai passé toute la nuit à essayer de trouver ce que j'allais faire
et
comme jeu, comme chronique. Oh, c'est bien mal me connaître. Ah. J'en ai trouvé une, mais je vous préviens, c'est très très absurde. Alors je suis parti un petit peu loin dans ma tête. Je me suis dit, tiens, eczéma, ça ressemble à quoi comme mot, à quoi ça me fait penser? Et j'ai pensé à Benzema. Karim Benzema, et j'ai pensé à Azema, Sabine Azema. Ouais. Donc je vous propose un petit quiz tout simplement. Oui, les réponses, c'est eczéma, Benzema ou Azema.
Ah, d'accord.
Voilà, okay. Sabine Azema, Karim Benzema ou de l'eczéma. Attention, vous jouez
parfait
pour la même équipe. Mélanie, ouais. Julia, si je vous dis, certains l'appellent dermatite atopique.
Eczéma.
Eczéma, vous marquez un point, bravo. Attention, si je vous dis, a été découvert à Lyon.
Benzema.
Benzema est une bonne réponse, bravo. Si je vous dis, a eu un ballon d'or.
Benzema.
Et non, c'était l'eczéma. Non, c'est pas vrai, bien joué, vous êtes concentré. Si je vous dis, a été découvert en 49.
Azema.
Hein, Azema, oui.
Sabine Azema,
ouais.
Bien joué.
On a tout juste là.
Attention pour l'instant, ouais. Si ouais. Je vous dis, touche beaucoup d'adolescents.
Azema.
Non, eczéma.
Eczéma.
Je pensais à eczéma.
Et oui. Benzema aussi, parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qui sont touchés, qui portent le maillot de Benzema.
D'accord.
Donc vous marquez un demi-point. Si je vous dis, a eu un César.
Azema.
Azema,
Azema.
Si je vous dis César en a eu.
Hein?
De l'eczéma. De
l'eczéma, sûrement, on va vérifier dans les cours d'histoire. Si je vous dis arrive avant les autres dans l'ordre alphabétique.
Azema.
Oui,
Azema, bien joué. Azema. Ah, vous êtes, c'est presque sur un sans faute. Et enfin, je l'ai eu, mais dans ma voiture.
Benzema.
Et j'ai eu Benzema un jour dans
ma
voiture.
C'est pas vrai.
Et quand j'avais 18 ans, il lui en avait 17.
Oh.
Une autre histoire, je vous raconterai, mais je me suis retrouvé à la ramener un jour à Lyon chez sa mère.
Oh, on a envie d'en savoir plus, c'est incroyable. Mais bon, on doit parler d'eczéma.
Allez,
on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Clément, pour ce petit échauffement sur notre sujet de ce matin, enfin presque. On va donc parler santé à présent et surtout d'une pathologie donc extrêmement fréquente, l'eczéma. Avec notre invité, c'est vous, docteur Jérémy Lupu. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin dermatologue. Je disais juste avant, c'est une maladie de peau très répandue, l'eczéma. Mais vous, dans votre cabinet, pour nous donner une petite idée, quel est le constat? C'est vraiment, vous voyez énormément de patients pour ce motif-là. Est-ce que c'est, je sais pas, une des plus fréquentes raisons?
Bien sûr. Bien sûr, c'est un motif de consultation qui est extrêmement fréquent. Il faut savoir que ça touche à peu près un enfant sur cinq, pour vous donner un ordre d'idée. Donc finalement, en consultation, c'est un peu le reflet de ça. C'est-à-dire que on va dire qu'un quart de mes consultations, un quart de mes patients viennent pour ce motif-là. Et puis, il y a certains dermatologues qui sont vraiment très spécialisés dans l'eczéma, qui, eux, vont voir des patients tous les jours et qui vont avoir uniquement cette pathologie.
Et donc, on peut dire que c'est la première maladie de peau en France. Il y a combien de patients au total sur notre territoire?
Alors, il y a 2,5 millions de Français qui sont touchés par l'eczéma. On l'a dit, plutôt les enfants, parce que ça régresse souvent à l'âge adulte, mais pas tout le temps. Mm-hmm. Ça touche quand même environ 5% d'adultes, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que ça peut engendrer un retentissement qui peut être important sur la qualité de vie, qu'on soit enfant ou adulte.
Dites-moi, docteur Lupu, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est l'eczéma? Comment on le reconnaît par rapport à d'autres maladies de peau? Elle ressemble à quoi, les lésions?
Alors, l'eczéma, en fait, c'est une prédisposition génétique. Ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'on est avec de l'eczéma. Pas forcément dès les premiers jours de vie, mais souvent, ça arrive dans les premiers mois de vie. On va avoir des plaques sèches. Alors, chez le nourrisson, chez le tout petit, moins de 2 ans, ça va être plutôt sur le visage, sur les joues, le front. Et puis après, chez l'enfant, plutôt sur les plis. Et ça se reconnaît parce qu'on a des plaques qui grattent sur une peau qui est sèche. Ça, c'est souvent le problème principal. Mmh. Et puis, il peut y avoir des petites vésicules, donc c'est des petits boutons qui sont remplis d'un liquide transparent, qui peuvent parfois suinter, donner des croûtes, etc. Donc, c'est une maladie chronique qui est facilement identifiable par le dermatologue ou le médecin généraliste.
Est-ce que c'est une maladie d'origine allergique ? C'est vrai qu'on connaît des gens dans notre entourage qui ont à la fois de l'asthme et de l'eczéma, ou qui ont, enfin, de l'asthme allergique, hein, je m'entends, mais qui sont allergiques à des choses et qui, tout d'un coup, vont aussi avoir des lésions sur la peau.
Alors, à proprement parler, ce n'est pas exactement de l'allergie, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'atopie. En fait, l'atopie, c'est un terrain génétique, c'est une prédisposition d'avoir une fragilité d'un organe. Donc, dans le cas de l'eczéma, c'est la peau qui est une barrière, vous savez, contre les agressions. Quand on a de l'eczéma, bah, cette barrière, elle est perméable. Et du coup, on va être beaucoup plus sensible aux agressions de l'environnement. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a un terrain génétique là-dedans. Et souvent, l'eczéma, ça va de pair avec l'asthme allergique, avec la rhinite, qu'on appelle aussi le rhume des foins. Exactement. Et la conjonctivite. Et donc, souvent, ces maladies s'associent entre elles.
Alors, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques en France et dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont souffrir d'eczéma ? Je crois que depuis quelques années, c'est ce qui se profile quand même, non ?
Oui, exactement. En fait, l'incidence, elle a triplé en 30 ans. Oui. Et ça, en fait, c'est lié à notre mode de vie. Donc, vous savez, en fait, que les agressions qu'on subit dans l'environnement, elles sont quotidiennes. On a la pollution, la poussière, on a les UV avec le soleil. Et en fait, il se trouve que de plus en plus dans nos sociétés qui sont industrialisées, on va être soumis à ces allergènes, à ces agressions. Et donc, les personnes vont être de plus en plus susceptibles de développer de l'eczéma. C'est le cas aussi pour l'alimentation très industrielle qui peut effectivement causer de l'inflammation au niveau de la peau. Puis il y a une autre théorie, ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. C'est le fait de se dire que
plus on est propre et dans un monde aseptisé, c'est ça, hein ?
Exactement. Plus on utilise des antibiotiques, plus on vit dans un monde aseptisé où on va se laver avec des savons qui vont être agressifs de nombreuses fois dans la journée. La dernière fois que je suis venu, on parlait de combien de fois il faut se prendre une douche.
Eh ben, si vous ni trop peu, ni pas assez.
Trop peu, ni pas assez. Une fois par jour, c'est très bien, voire un jour sur deux, justement chez les personnes qui ont de l'eczéma, parce que tout ça va entraîner de l'irritation. Et à la surface de notre peau, on a quand même des bactéries qui sont là et qui sont bonnes pour notre organisme. Vous connaissez le microbiote digestif, c'est la même chose pour la peau. Et donc, trop d'hygiène tue l'hygiène, donc attention aussi à ça. Et c'est probablement aussi ça qui explique l'augmentation de l'incidence.
Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup d'enfants, parmi les 2,5 millions, un peu plus de 2 millions de patients souffrent d'eczéma, beaucoup d'enfants dedans. Est-ce que ça veut dire que j'ai 40 ans, j'en ai jamais eu jusque-là, c'est bon, tranquille, j'en aurai jamais si j'en ai pas eu petite ?
Oui, a priori, effectivement, l'eczéma, la dermatite atopique, ça touche plutôt les nourrissons et puis ça évolue vers l'âge adulte. Donc si vous avez jamais eu de problème d'eczéma, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En revanche, on peut avoir une autre forme d'eczéma qu'on appelle l'eczéma de contact, qui est plutôt chez les personnes qui vont avoir des métiers type coiffeur, soignant, etc., qui vont manipuler avec les mains certains allergènes, qui peuvent développer à l'âge adulte un eczéma de contact au niveau des mains. Mais ça, c'est un peu plus particulier. Mais effectivement, si on parle de la dermatite atopique, c'est génétique. Et ça touche en priorité les enfants jusqu'à l'âge adulte.
Merci à vous, docteur Lupu. On reste ensemble. Comment ça se traite l'eczéma ? Alors, peut-on espérer s'en débarrasser définitivement quand on en souffre ? D'ailleurs, on dit qu'en été, les problèmes de peau s'arrangent en général. Est-ce le cas pour l'eczéma ? On vous dit tout dans un instant. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Ravi de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi à la veille de la journée nationale de l'eczéma. On a décidé de parler ici de cette maladie de peau extrêmement répandue. Pour en parler, notre spécialiste est toujours à nos côtés en studio, ici au pied du cours central Philippe Châtrier à Roland-Garros. C'est vous, docteur Jérémy Lupu. Bonjour, rebonjour.
Rebonjour.
Je rappelle donc que vous êtes médecin dermatologue. Vous nous disiez en préparant l'émission qu'on ne connaît pas encore vraiment ce qui cause la maladie. On connaît les facteurs qui peuvent la provoquer. Ok, si j'ai bien compris, mais ce sont lesquels par exemple ?
Alors, il y a certains facteurs, on parlait de tout ce qui va agresser la peau. Il y a la pollution, la poussière dans l'environnement, donc tout ça peut éventuellement déclencher des poussées. Vous pouvez aussi avoir le fait de justement trop irriter la peau, on en parlait tout à l'heure. Alors le fait de prendre des bains par exemple, qui vont être trop fréquents, trop longs, avec une eau trop chaude par exemple, tout ça va entraîner une déshydratation, une agression de la peau. L'utilisation des savons aussi, des savons que vous pouvez acheter en supermarché, ils peuvent être un petit peu caustiques justement si vous avez la peau sensible. Il faut privilégier plutôt les savons sur gras, les huiles lavantes.
Ça permet de rebondir sur une idée reçue de l'eczéma. Les gens, quand ils voient parfois les bras des gens qui ont de l'eczéma, ils vont dire « Oh, c'est parce qu'il est sale !» Au contraire, les gens qui ont de l'eczéma, c'est peut-être des gens qui sont trop propres, non ?
Exactement, tout à fait. Ça peut déclencher effectivement l'eczéma, le fait de justement trop se nettoyer, d'utiliser des choses qui vont être trop caustiques. Et justement, vous disiez à juste titre, parfois, les gens qui ont de l'eczéma, ils vont se dire « Oh là là, j'ai une infection, j'ai quelque chose, ça va pas !» Ils vont utiliser des tonnes d'antiseptiques. Et l'antiseptique, c'est vraiment, il y a de l'alcool évidemment dedans, et donc c'est le pire que vous puissiez mettre sur la peau. Ah, oui. Quand vous avez la peau fragile, ça déclenche évidemment des poussées. Donc tout ce qui va agresser la peau est à risque d'entraîner des poussées. Il peut y avoir aussi des mécanismes internes, le stress, l'alimentation, le manque de sommeil. Tout ça, en fait, va créer de l'inflammation dans votre corps qui va retentir sur la peau et poursuivre en fait ce cercle vicieux.
Est-ce qu'avec les beaux jours qui arrivent, on peut observer un mieux ? Parce que moi, je connais des gens qui ont de l'eczéma et en été, ils n'en ont quasiment plus.
Exactement.
Il y a un petit retour de boomerang, non, après ?
Exactement. Il y a un gros retour de boomerang parce que le soleil, ça a un rôle anti-inflammatoire. C'est le cas pour toutes les maladies de la peau, hein, de l'acné au psoriasis en passant par l'eczéma. Eh bien, le soleil va atténuer les lésions. Le soleil va améliorer. Le problème, c'est que quand vous prenez le soleil, vous bronzez, la couche de peau augmente, l'occlusion qu'il y a sur la peau augmente et l'inflammation augmente. Et dès qu'il n'y a plus ce soleil, tac, vous prenez le retour du bâton.
C'est comme l'acné un peu, non ?
Exactement, c'est exactement comme l'acné, c'est comme le psoriasis, c'est comme l'eczéma. Et les patients qui ont des problèmes de peau chroniques, ils le savent très bien que dès lors qu'ils vont aller au soleil, ça va aller mieux. Mais s'ils ne font pas attention, il y a un risque de rebond à la rentrée.
J'allais le dire, de toute façon, ces patients-là comme les autres, et peut-être encore plus eux parce qu'ils ont la peau fragile, mais on doit tous se protéger du soleil. Néanmoins, mettre des crèmes comme ça, des crèmes solaires qui sont souvent très épaisses chez des gens qui ont de l'eczéma, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils doivent mettre des crèmes particulières pour les peaux plus sensibles ? Comment ça se passe la protection pour eux ?
Alors effectivement, il y a des crèmes solaires que généralement on achète en pharmacie qui sont dédiées justement aux peaux sensibles mais qui peuvent être très bien utilisées par tout le monde. Et les conseils qu'on donne généralement, c'est de faire attention aux crèmes qui contiennent de l'alcool, on en parlait tout à l'heure, des parfums pareil qui peuvent être agressifs pour la peau, ou alors certains filtres chimiques qui peuvent être irritants comme l'octocrylène dont on parle souvent. L'octocrylène, c'est un filtre chimique qui a un potentiel irritant. Et donc, chez ces personnes-là, il faut bien faire attention d'utiliser des produits adaptés qu'on trouve généralement en parapharmacie.
Et dites-moi, l'été, c'est aussi synonyme de piscine, de plage. Est-ce que le chlore ou le sable, par exemple, ça peut aussi provoquer des poussées d'eczéma ? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux patients qui se baignent ou qui s'allongent dans le sable ?
Bien sûr. En fait, effectivement, tout ce qui va agresser la peau, on en revient toujours à la même chose, peut créer de l'inflammation et des poussées. Donc, les personnes qui veulent profiter du soleil cet été, il faut penser à mettre de la crème, déjà de la crème hydratante le matin, en fait, pour reconstituer la barrière, justement, pour se protéger.
Le film lipidique, hein, c'est ça, le gras de la peau.
Le gras de la peau que non plus les personnes qui ont de l'eczéma parce que leur barrière est fragilisée. Et puis, évidemment, de penser à bien se rincer après qu'on ait fait une baignade à la piscine ou à la mer. Quand on se sèche, en revanche, avec une serviette, il faut plutôt se tamponner que de frotter de la même manière parce que sinon, vous allez abîmer la barrière. Donc, en fait, voilà, il faut faire attention à soi et
y
aller avec douceur. Exactement.
Alors, on a la chance d'être en direct depuis Roland-Garros sur Europe 1, radio officielle. On doit prendre des précautions quand on a l'eczéma et qu'on pratique un sport, qu'on transpire beaucoup. Qu'est-ce que vous conseillez aux patients ?
Effectivement, la transpiration, ça aggrave l'inflammation. Donc, on va plutôt leur conseiller d'éviter tout ce qui va être vêtements synthétiques, plutôt privilégier les matières type coton pour justement avoir un peu de souplesse et des choses qui vont être moins irritantes. Éviter les vêtements trop serrés. En fait, il faut être à l'aise quand on fait du sport. Bien s'hydrater avant, mettre de la crème solaire si on est en extérieur, comme là à Roland-Garros, et bien laver les vêtements après chaque usage. Pas besoin forcément d'utiliser de la lessive hypoallergénique, une lessive standard suffit, mais voilà, utiliser en gros les vêtements avec les bonnes matières, bien les laver et bien protéger sa peau.
Alors on a reçu un témoignage d'une maman dont le fils prépare des examens, comme beaucoup de mamans avec des enfants
en ce moment.
On pense à eux d'ailleurs. Cette maman, c'est Corinne sur Instagram, et elle dit que son fils de 20 ans a toujours des plaques d'eczéma qui apparaissent avant ses oraux, ses partiels, et que ça avait fait pareil au moment du bac, et que ensuite ça part. Est-ce que le stress à lui tout seul peut causer de l'eczéma ? Est-ce qu'on peut prévenir d'ailleurs ce problème ?
Bien sûr, le stress, de manière générale, déclenche des poussées de toute maladie inflammatoire chronique, mais de la peau, mais d'autres choses d'ailleurs. comment ça marche? Probablement avec de l'inflammation de la peau. Probablement, vous avez probablement entendu parler du microbiote de la peau. Il y a un équilibre des bactéries à la surface de la peau. Et le stress, ça va créer justement une inflammation qui va entraîner un déséquilibre et donc favoriser des poussées. Pour éviter ça, j'ai envie de dire éviter le stress, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire.
On voit que vous passez pas le bac cette année, on peut pas éviter l'examen.
En revanche, ce qu'on fait si on a la peau sensible, tous les conseils dont on parlait précédemment, à savoir crème hydratante, éviter les savons, éviter les irritants de la peau, éventuellement utiliser, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des crèmes à base de cortisone si vraiment il y a des poussées importantes.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Lupu. On n'en a pas fini avec vous. Et surtout, on va passer à l'ordonnance à présent. Quels sont les traitements ou les conseils efficaces pour soulager ou même soigner complètement l'eczéma? On y revient dans quelques toutes petites minutes. Alors, restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bienfait pour vous est en place aujourd'hui depuis la porte d'Auteuil. Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Ça vous dirait d'en finir avec l'eczéma?
Ah oui. Non,
mais c'est ce que l'on vous propose ce matin. Soulager cette maladie de peau qui touche des millions de Français. Et pour cela, on écoute les conseils du docteur Jérémy Lupu, médecin dermatologue. Alors, on va passer en revue toutes les solutions efficaces contre l'eczéma, car même si ce n'est pas dangereux, l'eczéma peut avoir de graves répercussions psychologiques. Docteur Lupu, vous dites même que ça pourrit la vie des patients. C'est ça, à ce point-là?
Exactement. C'est une maladie chronique de la peau. Ça impacte en fait toutes les facettes de la vie. Le quotidien des patients, il est altéré forcément parce que quand on a de l'eczéma, on l'a dit tout à l'heure, il faut penser à comment on va s'habiller, faut penser à comment on va se laver, faut penser où est-ce qu'on va sortir, est-ce que
en
j'ai
fait
bien
que ça se voit potentiellement sur le visage. Hein,
évidemment,
c'est ça.
Ça a un impact social qui est énorme parce que la peau et surtout le visage, c'est la carte d'identité. Hein. L'eczéma chez les adultes, ça touche fréquemment le visage, fréquemment les mains, donc les zones.
Le crâne aussi peut-être, non?
Ça peut toucher effectivement le cuir chevelu, alors peut-être plutôt le psoriasis que l'eczéma, mais tout ça c'est très affichant et évidemment ça a un impact qui est énorme et certaines personnes vont même renoncer à avoir une vie sociale. Moi j'ai des patients qui ont de l'eczéma et qui me disent écoutez, moi quand je suis en poussée, je reste chez moi, je fais rien du tout.
À ce point-là,
voir une vie professionnelle, évidemment.
Ça peut causer donc des arrêts maladie finalement, l'eczéma.
Ça peut causer effectivement des arrêts maladie, ça peut causer en fait de l'anxiété, plein de choses très négatives.
Et vous dites même que ça peut jusqu'à impacter la vie sentimentale, voire la vie amoureuse et sexuelle de vos patients. Dans certains cas, ça arrive, ils vous parlent de ça.
Exactement, en fait, il y a des études qui ont été menées qui ont montré que les trois quarts des patients qui avaient de l'eczéma chronique, niveau de la peau, étaient impactés dans leur vie sentimentale et dans leur vie sexuelle parce qu'ils n'osaient pas aller vers quelqu'un, ils n'osaient pas...
Les parties intimes peuvent être impactées par
les parties intimes peuvent être effectivement touchées et donc c'est toujours le même problème. Les conjoints aussi sont impactés, la moitié des conjoints sont impactés parce que justement ça perturbe leur vie sentimentale, leur vie sexuelle. Donc,
mais attendez, c'est pas contagieux? Quand vous dites les conjoints sont impactés
parce qu'ils voient leur conjoint souffrir,
mais l'eczéma, on est bien d'accord que ça n'est pas contagieux.
C'est pas contagieux, mais psychologiquement, les conjoints vont être impactés parce que ils vont
on a peut-être
pas oser, ça va passer. Ouais, en fait, c'est pas ça, c'est que comme ils savent que la peau fait mal, la peau est douloureuse, ça peut forcément impacter la vie sentimentale.
Alors justement, on va passer au traitement quand même. Oui. Comment on traite l'eczéma? Et quand je dis traiter, c'est pas forcément guérir. On a bien compris qu'on ne guérit pas de cette maladie. C'est bien ça, c'est pour la vie.
Exactement, c'est une maladie chronique, mais on arrive quand même à avoir des moments. L'idée, c'est d'avoir des moments de rémission qui sont super prolongés avec des poussées qui soient le plus espacées possible, de telle sorte que les patients, justement, ils puissent mener une vie normale. Et donc, il y a deux piliers pour ça. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle les émollients. En fait, c'est les crèmes hydratantes. Et ça permet.
Ça, c'est du traitement déjà. S'hydrater la peau, ça fait partie du traitement.
100%. Et c'est. Pour certaines personnes qui ont un eczéma qui est très très léger, qui se manifeste uniquement par de la peau sèche, la crème hydratante suffit. Moi, je dis souvent aux patients, les poussées, elles se manifestent lorsque vous avez la peau sèche. Donc, hydrater sur des formes très légères peut parfois suffire. Donc, vraiment, avoir ça en base, c'est absolument indispensable. Et lorsqu'on a des poussées, lorsqu'il y a une inflammation qui est trop importante, on va utiliser les anti-inflammatoires de la peau, que sont les crèmes à base de cortisone, qui parfois peut avoir mauvaise réputation, notamment quand on parle des enfants, qu'on dit aux parents, il va falloir mettre de la cortisone. Parfois, ils n'aiment pas trop.
Mais sur la peau, ce n'est pas la même chose que quand on mange de la cortisone en comprimé.
Exactement. C'est très différent. Il n'y a pas d'effet secondaire, quasiment pas quand c'est sur la peau. Et ça permet généralement de passer le cap.
Alors, on a une question concernant justement les traitements, une question de Maëva qui vit dans les Landes. Elle nous demande, est-ce que si je prends des antihistaminiques, je vais avoir moins d'eczéma? C'est une bonne question, docteur Lupu, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure que l'eczéma, c'était comme une allergie. Est-ce que ça peut avoir un effet, du coup, les antihistaminiques?
Alors, c'est une très bonne question, mais sans rentrer dans les détails techniques, l'eczéma, il ne va pas tellement jouer sur l'histamine. Donc les antihistaminiques, ils ne vont pas être très utiles. Ils peuvent être utiles dans certaines autres maladies de la peau, par exemple de l'urticaire. Ouais. Ça, effectivement, c'est une allergie vraie. L'eczéma n'étant pas une allergie vraie, ça a peu d'effet, peu d'impact. Mmh. En revanche, la peau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plus grand organe qu'on a dans le corps humain et il est 100% accessible. Et nos crèmes permettent non seulement d'être efficaces sur les poussées, mais en plus de diminuer les effets secondaires d'un médicament qu'on prendrait par voie orale.
Alors, en cas d'eczéma, vous pouvez aussi, on vous avait expliqué ça en préparant l'émission, mais réaliser des séances de photothérapie. C'est quoi ? C'est comme aller dans une cabine UV, prendre
le soleil ?
C'est
à peu près le même principe, sauf que c'est fait par des médecins et donc c'est à usage médical.
Ils ne sont pas cancérigènes comme les rayons du soleil à haute dose ?
Alors, beaucoup moins parce qu'effectivement, les doses sont bien dosées. Effectivement, il y a toujours un risque qui existe. Donc, chez des patients qui sont prédisposés, qui ont des facteurs de risque d'avoir des cancers de la peau,
on
ne fera pas. En revanche, on a dit que le soleil fait du bien. Ce qui fait du bien dans le soleil, c'est les UV. Et donc, on va utiliser un spectre très étroit de ces UV pour justement essayer d'aboutir à une rémission, en tout cas à guérir l'eczéma sur une certaine période, mais c'est au prix de séances qui vont être répétées.
Ouais. Et dites-moi, en cas de poussée, je crois que vous avez des astuces pour calmer les démangeaisons, car parfois c'est vraiment difficile de se contrôler tellement ça gratte, surtout avec nos enfants. Le froid, non ? C'est
oui,
bien ça ?
Alors on peut utiliser effectivement du froid. Il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi en pharmacie, parapharmacie, c'est des sprays, ce qu'on appelle des sprays SOS en fait. C'est SOS grattage, tout, vous mettez un petit coup de spray.
C'est une bombe de froid en fait, c'est ça ?
Alors, il y a, en fait, c'est... Il peut y avoir plusieurs choses, du froid, de l'eau thermale, des actifs anti-inflammatoires, ouais. C'est tout ça combiné.
Ça peut servir pour la varicelle, ça, je suis en train de me demander, pour pas qu'il se gratte.
Ça peut, tout à fait. En fait, ça fait pas de mal. Et effectivement, ça va permettre de calmer
la démangeaison.
Et ça peut servir en premier jet. Mais effectivement, ça remplace pas les traitements qu'on a dit. Maintenant, c'est effectivement une petite astuce et c'est sans ordonnance en pharmacie.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Lupu, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 depuis 11h. Et je rappelle que demain, à l'occasion de la journée nationale de sensibilisation à cette maladie, il y aura encore des temps d'échange, des conseils, des ateliers ludiques pour les patients dans plusieurs villes de France. Toutes les infos sont à retrouver sur www.associationeczema.fr.
Merci, docteur. À suivre, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre puisque nous sommes à Roland-Garros. Notre chroniqueur voyage, Gavin Clémenté Ruiz, a décidé de nous faire découvrir des terrains de tennis insolite en France et ailleurs. Et puis le vendredi, on retrouve aussi toujours Perla Servan-Schreiber, sa recette du jour, des mafaldines aux tomates cerises. On va se régaler, alors je vous le conseille, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Quel plaisir de vous retrouver ici dans l'émission qui vous facilite la vie. Merci d'être à nos côtés sur Europe 1 jusqu'à midi. Et maintenant, à nos côtés, autour de la table, dans ce studio de Roland-Garros, nous avons avec nous Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla.
Et bonjour.
Alors, des mafaldines à l'honneur dans votre recette tout à l'heure. Rappelez-nous ce qu'elles ont de spécial, ces pâtes.
Alors, les mafaldines, c'est des grandes pâtes longues, larges et dentelées, ravissantes. Mmh. On peut les remplacer par des penne qu'on trouve plus facilement. Et nous allons les déguster au citron et aux tomates cerises. Tout est idéal pour les grands sportifs.
Ah, merci Perla. On vous retrouve dans quelques instants, mais on va s'évader un peu d'abord avec Gavin Clémenté Ruiz du Guide du Routard. Bonjour Gavin.
Bonjour Gavin.
Comment ça va ?
Ça va. Comme nous sommes à Roland-Garros, nous vous avons demandé de nous trouver en France et ailleurs dans le monde des endroits complètement fous pour faire du tennis. Alors je suis sûre que ça existe, ça, non ?
Carrément, j'ai planché. Hein. Je me suis documenté, j'ai cherché et j'ai trouvé. Alors déjà, on va commencer à Paris, hein, juste à côté de Roland-Garros, pas très très loin, entre le 7e et le 15e arrondissement, c'est à cheval. Ça s'appelle le tennis de la cavalerie.
C'est à cheval et ça s'appelle le tennis de la cavalerie. C'était bien trouvé là.
Pas mal, j'ai réfléchi. Bref, c'est un endroit vraiment, vraiment original. Alors, cavalerie, bon, on pourrait croire qu'il y a peut-être des chevaux, mais non. Vous allez voir, alors vous allez arriver devant un endroit, un beau bâtiment art déco. De l'extérieur, on voit pas grand-chose. Au rez-de-chaussée, c'est un garage, hein, Aston Martin d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est au-dessus de l'immeuble. On est sur le toit. Oh. Et là, on a le tennis, un terrain de tennis avec une toiture en bois en forme de, vous savez, de navire inversé, là, comme ça. Et donc, on voit la Tour Eiffel, on voit les Invalides, les jolis toits gris de Paris.
Mais on est là pour jouer quand même.
Quand même. On en profite entre deux petits coups, on regarde à travers les fenêtres. C'est là que se sont entraînés les mousquetaires autrefois. Hein, donc, c'est un très vieux cours de tennis. Et je ne vous cache pas que les places sont un peu chères, mais vraiment, l'endroit est extraordinaire.
Oh, c'est génial, ça fait rêver. Bon, encore faudrait-il qu'on sache jouer au tennis avec Julia. Ouais, mais faire du tennis sur un toit, honnêtement, ça nous donne très envie. Est-ce que vous avez un autre terrain insolite peut-être à nous proposer?
Eh bien là, on prend la direction de l'Italie. Oh, on j'adore. Va aller sur la côte amalfitaine, Positano.
Oh. Mon attention. Endroit préféré.
C'est son endroit
et là,
préféré, oui.
Il y a un endroit, qui s'appelle l'hôtel Il San Pietro di Positano. Et là, vous êtes au milieu d'un amphithéâtre rocheux suspendu comme entre ciel et mer. C'est absolument magnifique. C'est très photogénique, instagrammable, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est là que se trouve donc cet hôtel avec des jolies chambres.
Hein, et pas cher, hein, franchement. Alors, les heures de prix.
Non, alors j'ai regardé juste avant d'arriver. Premier prix en ce moment. Si, ouais. si vous avez hors envie saison, de vous quoi. Faire plaisir pour une nuit de noces ou je ne sais quoi, ouais. ou une nuit d'amour, je ne sais, mm-hmm. 1200 euros. À partir
oui,
de 1200
cher,
euros.
Hein, ouais, c'est la chambre très, très de 17 mètres carrés. Hein. C'est,
oui, ouais. oui, bah oui, mais vous avez la mer avec vous et vous avez surtout ce terrain de tennis.
Donc tout comme ça, tout seul à flanc de falaise quasiment.
Enfin, complètement, c'est enclavé dans la roche. Et vous avez la végétation d'un côté, la roche, et de l'autre, vous avez la mer. Donc il faut juste bien viser parce que sinon la balle...
Est en... Et dites-moi, en France, en Europe, est-ce que vous avez une autre idée de terrain de tennis?
Ah ouais.
Ou jouer dans un lieu improbable où vous voulez dans le monde. Hein.
J'ai choisi New York.
Ah ouais, on va beaucoup plus loin là.
Et alors là, en plein cœur de New York, à Grand Central Station, c'est la grande gare de ferroviaire de la ville. Hein. Mmh. Et bien là, se trouve à l'intérieur de la gare, un endroit complètement fou. Ça se passe au 4e étage. Et vous êtes dans cet immense hall de style Beaux-Arts, hein, qu'on voit souvent dans des films comme La mort aux trousses ou d'autres films. Il y a du marbre, il y a des
lustres. Génial.
Et il y a un terrain de tennis. On peut le louer à l'heure. Oh. À la journée ou prendre des cours tout simplement. Bref, vous allez peut-être apprécier d'avoir du retard dans votre train parce que vous allez pouvoir, le temps de l'attente, aller faire un petit match.
Bah,
pourquoi pas.
Ouais, c'est clair. Lequel c'est vous préférez des 3-4 combien on avait là 3, ah, hein, ouais, 3. Positano, bah, le 15e, 7e ou celui de New York.
Ah bah, je trouve que les trois propositions sont géniales.
Et vous, Perla, vous iriez où jouer au tennis?
Moi, j'irais sûrement pas à New York, mais ouais. j'aime bien la terrasse là.
De Positano, hein.
Positano, parce qu'on prend l'ascenseur pour descendre se baigner.
Oh là là, qu'est-ce que c'est beau.
La mer.
Eh bien moi, je suis une fille simple, donc j'irai dans le 15e, juste à côté. Ça nous coûtera moins cher. Merci beaucoup, Gavins, pour tous ces sites, tous plus fous les uns que les autres, des sites insolites pour jouer au tennis. Alors je rappelle qu'on vous retrouve dimanche à 11h aux côtés de William Lémergie dans Balade en France. Et à présent, eh bien, on va passer à Perla, car l'heure du déjeuner approche. Et je me disais, tiens, ah, je me le disais ce matin. Si on faisait des mafaldines hein, ce midi, je sais pas ce que c'est, mais ouais,
elle me disait si Mélanie, si tu me faisais des mafaldines, ou tiens si Perla nous faisait des mafaldines.
Bah, c'est déjà, il faut nous expliquer ce que c'est.
On s'est dit des pâtes. Vous avez déjà fait des
pâtes. Mais vous saviez ce que c'était vous des mafaldines?
Oui, je connais, ouais, bien sûr.
C'est des pâtes longues, larges d'un centimètre et dentelées des deux côtés.
On dirait un peu qu'elles sont frisées, vous voyez.
Très frisées, très frisées. Jolies. Mais enfin, ça fait rien pour prendre les pâtes que vous voulez.
Voilà. Non, mais on va rester sur les mafaldines. Hein,
on reste. Hein,
c'est alors, c'est quoi les ingrédients?
Il y a quoi comme ingrédient?
Alors, les mafaldines, on les coupe en trois avant de les mettre à bouillir.
Ah, parce qu'elles sont fraîches alors, parce que couper des pâtes sèches, c'est pas évident, non?
Sèches, on casse.
Ah oui, vous les cassez quoi, on y va, allez tranquille.
Avec les deux mains, vous cassez les pâtes.
D'accord, hein. Ok,
c'est ça que font toutes les cuisinières italiennes.
Ok, on casse
alors,
les pâtes.
On achète des mafaldines, on a des tomates cerises pleins, du citron, parce que la sauce est au citron, c'est absolument délicieux, d'une énorme poignée de roquette, de l'ail rose, de la moutarde de Dijon et... de la sauce soja, si on a envie de faire pas végétarien. Alors, en ce moment-là, on achète quelques blancs de poulet, on les découpe en lamelles et on les fait sauter dans le soja. Et après, pof, on les jette dans les pâtes.
Tomates cerises, quoi, 500 grammes, c'est bien
Alors, les tomates cerises, oui, c'est ouais. ça, 500 grammes.
Donc, ça va être deux petites barquettes, hein, en général.
Il faut être quand même généreux en tomates cerises. Okay. D'accord.
Très bien.
Et très généreux en citron, il en faut trois.
Ok. Ah oui, c'est bien citronné, ça. Hein.
Très citronné. Alors, on coupe les tomates cerises en deux quand elles sont un peu trop grosses, sinon vous les laissez entières. Vous concassez, c'est assez bon quand on saupoudre de noisettes.
J'adore ça, moi.
Vous concassez un peu comme ça les noisettes et vous rincez votre roquette. Ensuite, vous préparez l'ail, vous l'écrasez. Dans un bol, vous mélangez la moutarde, beaucoup de moutarde, hein.
Combien de moutarde?
3 cuillères à soupe de moutarde.
Oui, combien?
Oui, parce que là, on est 4, hein. Ouais. Ça fait 400 grammes de pâte. Mmh. Donc, on a 3 cuillères à soupe de moutarde, le jus des citrons, et du sel, et on mélange ça dans un bol. Et on le laisse de côté. Puis, on va plonger nos mafaldines. Si on achète, et je vous recommande les pâtes d'Etcheco, il y en a partout.
Oui.
Et sinon, des Barilianes, encore plus partout.
Ouais, hein. D'accord. Okay.
De toute façon, les pâtes, c'est italien. Hein. C'est comme ça, c'est la vie.
C'est comme ça, je ne sais pas autrement. Alors, voilà.
Excusez-moi, je trouve un peu chiche.
On a les fromages, on a les vins.
On est combien? On est 4?
400 grammes de pâtes, moi j'en mettrais le double.
Mais pourquoi vous mettez que 400 grammes? Bah, je trouve que c'est pas assez.
Bah, avec Julia, quand on se fait des pâtes, on se fait des pâtes. Quoi.
C'est la plâtrée,
ça, c'est
là.
C'est un plat unique, hein, parce qu'il y a plein de tomates cerises, il y a plein de roquettes, il y a plein.
Il y a plus
y a du poulet.
Franchement, vous qui nous écoutez, mettez 800.
Vous pouvez mettre 150 grammes par personne, aucun problème. Alors, elles sont prêtes. Mes pâtes sont prêtes. Elles sont cuites. On les écoute très rapidement. Il faut toujours. Quand vous avez une sauce à mettre dans vos pâtes, vous les écoutez rapidement parce qu'il faut les verser dans la sauce quand il reste encore un petit peu d'eau.
Ouais.
C'est comme ça que vous pouvez... Voilà, très peu d'eau de cuisson. Voilà. Et à ce moment-là, vous les remettez dans votre faitout avec l'huile d'olive, un peu de beurre, les lamelles de poulet si vous avez envie de mélanger du poulet que vous avez fait sauter, comme je l'ai dit, avec du soja, très rapidement. Les tomates, l'ail, vous salez, vous poivrez. Vous mettez votre petit bol de sauce, vous remuez parfaitement tout ça, vous saupoudrez avec des noisettes et là, vous jetez votre roquette crue et vous remuez.
Dites-moi, Perla, vous avez un hack aujourd'hui?
Ah ben évidemment que j'ai un hack. Et comment? Je le répète,
ah bon,
je le répéterai à chaque fois que je parle de pâtes.
D'accord.
Pour faire cuire les pâtes,
oui,
il faut 1 litre d'eau pour 100 grammes de pâtes et 1 cuillère à soupe de gros sel pour 100 grammes de pâtes. D'accord? Pas moins. Là, j'ai dit qu'on faisait cuire 400 grammes de pâtes. Ça veut dire 4 litres d'eau
et 4
cuillerées à soupe. Mais non, c'est là qu'elle bout. C'est comme ça qu'elle cuise. C'est comme ça qu'elle ne colle pas et qu'elle cuise parfaitement de toutes les faces.
Vous le saviez, Kevins?
Pas du tout, mais je suis là pour apprendre des choses.
Et vous, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire?
Qu'est-ce qu'on va manger de bon?
Alors, nous sommes à Roland-Garros, ce qui est quand même un privilège extraordinaire. Chacun ici s'en rend compte.
On va manger des balles.
Je me suis dit, je vais faire une boisson pour sportifs.
Oh, là, c'était le plat de pâtes pour les sportifs.
Et... au gingembre et à la citronnelle.
Oh, j'adore ça.
Merci beaucoup, Perla. Et bien sûr, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et bien voilà, ce magazine est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi dès 11h pour parler de quoi, Julia?
Eh bien, on va parler d'une autre maladie assez fréquente. Lundi, on va parler de l'asthme. D'ailleurs, peut-être qu'on peut être asthmatique et sportif. Ce sera l'une des questions à laquelle nous répondrons lundi. Puisque longtemps les enfants asthmatiques étaient dispensés de sport, bien ça, c'est fini aujourd'hui. Avec certaines précautions, on peut tout faire, même en ayant de l'asthme. On va tout vous dire lundi.